Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Lubomira Rochet, qui est la CDO, Chief Digital Officer du groupe L'Oréal. Et Lubomira, on s'est rencontrés il y a 3 ans quand tu as pris tes fonctions. Et je me souviens très bien de cette discussion où je t'ai dit waouh, quoi. Enfin, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, parce que le challenge il est quand même énorme. Moi je travaille beaucoup avec le groupe L'Oréal, je connais quand même pas mal de monde dans le groupe, je fais beaucoup de sessions de formation, donc je vois bien ce qui se passe dans le groupe et dans différents pays. Je suis allé au Brésil, je suis allé en Roumanie, je suis allé en Russie, je suis allé dans plein de pays avec L'Oréal. Et waouh, quoi, dur. Et tu m'as répondu à l'époque, ouais, mais on aime les défis dans le digital. Et je voudrais savoir où est-ce que tu en es après 3 ans, justement.
Écoute, c'est un défi quotidien, ouais. C'est un défi quotidien, transformer un groupe de la taille de L'Oréal et sur toutes les dimensions, sur la dimension du marketing, sur la dimension du go-to-market avec le e-commerce, sur la dimension de la data qui est évidemment essentielle, sur la dimension du lancement de nouveaux services.
Ouais.
C'est vrai que ça peut paraître une tâche immense, mais qu'on a bien saucissonné. Donc en fait,
j'ai l'impression aussi.
On a mis en place un plan qui était assez clair avec 3 grands objectifs plus 1, avec des sous-objectifs, avec des KPI.
C'était quoi les 3 objectifs à l'époque?
Les grands objectifs, c'est vraiment l'accélération du e-commerce.
Ouais.
C'est l'accélération de la collecte de data. Et c'est la transformation des modèles marketing vers plus de contenu, plus d'influence et vers des formes de contenu nouvelles.
Et est-ce que vous n'êtes pas bloqué, parce que la culture de L'Oréal, elle est quand même extrêmement forte.
Ouais.
Est-ce que vous n'êtes pas bloqué? Parce que la culture de L'Oréal et la culture qu'on a, enfin, on peut appeler ça comme ça, mais la culture du digital, la transformation digitale, c'est quand même beaucoup une question de culture. C'est d'abord d'ailleurs une transformation sociétale powered by digital qu'une transformation digitale per se. Comment vous y êtes pris pour la transformation, enfin je ne sais même pas si c'est fini d'ailleurs, mais comment vous êtes pris pour la transformation culturelle?
Ben alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est la transformation digitale, c'est d'abord une question de culture, une question d'homme. Aujourd'hui tu sais, quand tu bosses dans un groupe comme le nôtre, je pense que la transformation digitale, c'est la mère de toutes les transformations. Pourquoi je dis ça? Parce que au fond, elle a donné les outils à tout le monde, y compris à nos consommateurs, de venir sur des territoires qui n'étaient pas les leurs et qui étaient souvent les nôtres. Aller faire de la co-création, aller faire des contenus, aller travailler avec nous, aller inventer des produits avec nous. Toutes ces choses qui étaient assez balisées et chacun avait un peu sa place. Aujourd'hui, les cartes sont hyper rebattues grâce au digital. Et donc du coup, pour un groupe comme le nôtre qui est fondamentalement consumer-centrique, puisqu'on fait des produits pour les consommateurs, des produits de beauté pour les consommateurs, c'était une évidence. Là où moi j'ai eu beaucoup de chance, et je le dis avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie, c'est que je suis arrivée dans un groupe qui certes avait une culture centenaire, etc., mais qui est un groupe dont la culture est la permanente remise en question.
D'accord.
Donc c'est pas un groupe qui résiste au changement, au contraire c'est un groupe qui embrasse le changement. Je veux dire, L'Oréal, quand ça a commencé il y a 109 ans ou 110 ans, c'était un chimiste à Clichy qui a découvert une nouvelle façon de se colorer les cheveux qui était inoffensive pour les femmes et qui a lancé la coloration.
Ouais.
Bon, aujourd'hui on est le plus grand groupe de beauté mondiale sur tous les circuits de distribution dans 65 pays, et donc du coup on a pu faire ça que en se remettant en cause tout le temps. La rentrée dans la grande distribution, énorme changement. La télé, énorme changement dans la communication. Donc tous ces changements, on les embrasse avec passion, et le digital en fait est qu'un changement parmi d'autres.
D'accord.
Qu'on embrasse avec beaucoup d'enthousiasme.
Et alors du coup, comment vous y êtes pris pour la culture, pour le changement culturel? Enfin, vous avez fait des formations,
je vais essayer de pas te faire trop d'anglicisme, on a plutôt capitalisé sur la culture de L'Oréal pour montrer à quel point le digital s'inscrivait dans cette culture.
D'accord.
Par exemple, il y a des grandes phrases, tu sais, dans les grands groupes comme ça, il y a toujours des grandes phrases un peu inaugurales. La première grande phrase, c'est saisir ce qui commence. D'abord, c'est une très belle phrase.
D'accord.
Et qui est une culture, enfin, qui est une phrase qui s'applique tellement bien au digital, puisque dans le digital, tu dois toujours essayer d'être en train d'essayer de comprendre ce qui va arriver pour essayer d'anticiper au mieux. Mm-hmm. T'as une autre phrase qui est hyper importante, qui est faire et défaire pour mieux faire. Ben ça, si tu mets de la data à l'intérieur de ça, tu deviens une compagnie agile et tu deviens une compagnie qui est data-driven et tu deviens une compagnie qui est itérative.
Ouais.
Donc en fait, nous, on s'est plutôt appuyé sur le terreau culturel, en fait, qui est hyper favorable à la transformation D'accord. digitale. Et après, bien sûr, on a eu des enjeux, on a eu des challenges. Un, les silos, forcément. Les silos, quand tu poses dans un groupe de 80 000 personnes, tu as des silos dans tous les sens. Donc là, l'enjeu, ça a été de très vite rentrer avec des ways of working, avec des manières de travailler différentes. Donc nous, on a généralisé les hackathons. Alors on s'entend bien, c'est pas des hackathons au sens technique, etc. Mais on est arrivé avec cette proposition qui est de dire, en fait, on a un sujet business à craquer, on va mettre tous les stakeholders autour de la table, la com, le digital, le marketing, les ventes,
faire collaborer les gens, c'est pas mal,
faire collaborer les gens, et voilà à travers la mise en place, tu vois, à scale de ces méthodes là on a déjà quand même énormément fait bouger les cultures. Ensuite, on a fait beaucoup d'acculturation en start-up, on a emmené le Comex et tous les top managers en Silicon Valley comme il se doit. Mais ils y sont pas allés en mode touriste, tu vois, parce que sinon c'est le safari, quoi, la girafe par-ci, l'éléphant par-là. Là, on n'a pas été en mode touriste. Ouais, c'est ça. Oh, il est en jean. En fait, on n'a pas été en mode touriste. On y a vraiment été pour essayer de comprendre le terreau, en fait, de pourquoi ça se passe là-bas et comment ça se passe là-bas. On va beaucoup en Chine aussi.
Parce que j'imagine. Déjà, la Silicon Valley regarde la Chine, donc ça sera plus con de regarder la Chine.
Internet, juste, il s'invente en Chine.
Ah, mais enfin, c'est une certitude.
J'en suis absolument convaincu.
Et je suis d'ailleurs, c'est marrant, j'avais une discussion là-dessus avec la fondatrice de China Connect.
Ouais.
Et j'étais surpris qu'il n'y ait pas plus de monde à sa conférence parce que. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui parlent toute la journée de la Silicon Valley et il y a une conférence qui s'appelle China Connect à Paris qui est géniale sur du contenu sur la Chine et les gens ne viennent pas. Enfin, ils ne viennent pas. C'est pas qu'ils ne viennent pas, mais il y a beaucoup moins de monde que ce qu'on aurait pu attendre, en fait. Pour moi, c'est l'avenir du digital, il est en Chine, en particulier sur le live, sur le paiement par mobile, enfin tout ça, quoi.
Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai. Et je pense que les gens ont tendance à ne pas le voir venir parce qu'ils se disent, c'est l'écosystème chinois.
Ouais.
C'est des Chinois et ils viendront. D'abord, je pense qu'ils vont s'exporter.
C'est sûr.
Tu prends Alibaba, juste AliExpress, ça commence à être juste un des premiers touchpoint e-commerce en Espagne, ou en Russie. Mais au-delà de ça, je pense que moi, à chaque fois que je vais en Chine, et j'y vais souvent, je suis frappée à quel point c'est le pays le plus consumer-centrique. Alors, ils ont des consommateurs qui sont hyper digitaux, qui sont hyper mobiles. Qui ont, comme
dans les grandes villes, quoi. Enfin,
ouais, même en fait, partout, ils ont tous des mobiles. Ils achètent, fondamentalement, il n'y a pas de distribution au fin fond de la Chine. Donc, Alibaba, c'est un peu Byzance, quoi.
C'est Alibaba.
Et donc, du coup, il y a une familiarité avec l'usage, et notamment l'usage du mobile, qui est dingue. Mais au-delà de ça, il y a une anecdote, un truc qui m'a hyper marqué, tu sais, ils ont l'équivalent du Vélib, donc ils l'ont développé des années après nous, mais par contre, du coup, c'était quand même des batchs de 100 millions de vélos à chaque fois, donc c'est
classique.
Et du coup, ils te font un premier batch, et là, ils se disent, ils observent vachement les utilisateurs, et du coup, ils se rendent compte qu'en fait, avec un panier, ça serait mieux, donc ils refont un deuxième batch avec le panier, puis un troisième batch avec la selle qui... En fait, tu vois, cette attention à l'usage, au comportement du consommateur, c'est ce qui se retrouve partout dans tous les services qu'ils lancent, que ce soit sur Tencent.
Et l'itération, du coup.
Et l'itération. Et je trouve ça fascinant.
Ah, c'est génial. Et du coup, pour revenir sur L'Oréal, donc la culture, j'ai bien compris. Pour moi, il y a disons trois ou quatre défis majeurs qui sont liés au digital, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que le digital, c'est être sur les réseaux sociaux, avoir un site e-commerce, travailler avec les influenceurs, créer du contenu, tu vois, cette stratégie always on que toutes les marques mettent plus ou moins en place. Et pour moi, ça, c'est vraiment une sorte de d'écorce, quoi, mais le problème digital, il est pas là. Le problème digital, c'est un, ce que tu en as un petit peu parlé, mais le renversement du paradigme entre les consommateurs et les marques, parce que avant, les marques travaillaient leur brand equity avec de la pub parce qu'il y avait besoin de marques référentes. Mais aujourd'hui, sur le web, en fait, la marque que je veux, c'est la marque qui correspond précisément à mes besoins, ce qui explique la montée des indie brands. Mais en fait, ça renverse quasiment le paradigme, dans le sens où on parlait beaucoup de target, enfin de cible consommateur, et aujourd'hui, on est vraiment dans un modèle où c'est quasiment la marque la cible et le consommateur qui cherche. Donc ça, c'est le premier paradigme. Le deuxième paradigme, c'est la montée des GAFA, le fait qu'Amazon ait racheté Whole Foods, alors pour la partie US en tout cas, qui va avoir des conséquences hyper importantes, le fait que Google et Facebook maîtrisent complètement la publicité en ligne, et que aujourd'hui les marques quand même investissent beaucoup en pub et donnent de l'argent, et finalement pour moi, c'est pas une vision très positive pour Facebook, mais je considère que Facebook a vraiment utilisé les marques comme des chevaux de Troie quand ils ont vendu les pages de fans En disant créez votre page, vous avez accès à vos fans, et puis en fait ça a permis à Facebook de se développer beaucoup plus vite parce que les marques ont beaucoup communiqué sur Facebook, on fait de la pub pour Facebook à la place de Facebook, et finalement aujourd'hui les marques elles doivent payer pour accéder à leurs fans, enfin bref, tu connais l'histoire aussi bien que moi, comment Facebook et Google ou les GAFA c'est mes meilleurs ennemis quelque part, c'est comment je travaille avec eux et comment je m'en libère aussi d'une certaine manière. Et le troisième paradigme, c'est la montée des indie brands qui captent quasiment 100%, ce que dit Eldo, c'est 100% de la croissance des marques CPG, mais c'est vrai que dans la beauté c'est clairement le cas, et donc vous en avez racheté quelques-unes évidemment, et pour moi il y a vraiment une sorte de grand écart extrêmement compliqué à gérer pour les marques. C'est quoi ta vision sur tout ça en fait? C'est un peu complexe comme question.
Non, c'est pas complexe, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'ai toujours tendance à réfléchir en termes d'avantages compétitifs, en fait. Quand t'es un leader, voire le leader incontesté de ton industrie, la question que tu te poses, c'est comment tu stay ahead of the game, mm-hmm. et du coup, comment tu construis tes avantages compétitifs. Mm-hmm. Un groupe comme le nôtre, on avait quand même trois grands avantages compétitifs majeurs. Le premier, c'était le média. Mm-hmm. Plus t'étais riche, plus tu crées d'impression. Hein.
C'est clair.
Ça veut pas dire qu'il fallait pas faire du bon média.
Faire trop de JRP, c'est un petit problème. Mais
plus t'étais riche, plus tu créais de l'impression. Ça, c'est sûr. Plus tu établissais ta préférence de marque de manière assez mécanique, en fait. On avait même des élasticités qui tournaient bien, tout c'était cool. Le deuxième avantage énorme qu'on avait, c'était toute la recherche et développement interne. Comme on est un modèle très drivé par l'innovation, d'avoir sa recherche en interne, c'était un levier colossal d'avantages compétitifs. Et le troisième avantage qu'on avait, c'était la distribution. On avait construit notre distribution avec les retailers at scale dans 65 pays. Mmh. Donc c'est vrai que tu rachetais une marque ou tu lançais un produit, tout de suite, tu avais une échelle qui était majeure, et donc tu créais de la croissance. Si tu regardes aujourd'hui, le paysage est un tout petit peu différent quand même, parce que si tu prends n'importe quel indie brand, elle dépense zéro en médias, parce qu'elle va utiliser intelligemment les réseaux sociaux et de manière très organique réussir à trouver des reachs qui sont quasiment équivalents.
Mais parce qu'aussi, ils arrivent à toucher des niches. En fait, ils répondent à la première problématique dont je parlais, qui était que les consommateurs, ils cherchent des produits qui correspondent précisément à leurs besoins.
Complètement.
Ce que font les indie brands, ce que font moins les grandes marques en général.
Ah, mais alors après, je reviendrai à ça. Parce que là, il y a du coup une question de scalabilité, en fait.
Ah, c'est une évidence.
Donc du coup, si t'es une indie brand aujourd'hui, tu fais zéro média, t'es pas obligé d'avoir une recherche très forte chez toi, parce que t'as des organismes, enfin tu vois, t'as des vendors avec lesquels tu peux t'allier et qui peuvent travailler avec toi pour développer tes produits, ou en tout cas les premiers formes de produits, et parfois même plus rapidement que nos structures de recherche et développement. Et le troisième avantage compétitif, qui était la distribution. Aujourd'hui, tu vois, toi et moi, on monte une marque dans le CPG, une marque de fashion ou une marque de ce que tu veux. On fait un deal avec Alibaba et un autre deal avec Amazon. On est quand même tranquille en termes de distribution, on peut toucher 2-3 plus quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc du coup, c'est vrai que pour nous, et comme pour tous les autres, la question c'est comment, ok, tu prends acte qu'une partie de tes avantages compétitifs s'érode, comment tu en crées des nouveaux. Pour nous, le premier avantage incroyable qu'on a, c'est la relation directe avec nos consommateurs, qu'on n'a jamais eu. Parce qu'avant, c'était les retailers.
On était en B2B2C.
Donc nous, on n'avait pas de relation directe. Et deux, on n'avait pas de feedback loop sur ce que les clients aimaient, etc. Ça, c'est un énorme truc qu'on a construit. Et c'est pour ça qu'on investit autant sur le contenu. Aussi parce que ça crée une relation. Le deuxième avantage qu'on avait, mais qui est lié au premier, c'est la data. Juste, on n'avait pas de data, quoi.
C'est ça.
Zéro. Et aujourd'hui, quand tu vois l'importance stratégique de la data sur tous les processus, de l'amont à l'aval, c'est-à-dire de la détection des tendances qui va t'aider à mettre sur le marché la bonne offre produit, jusqu'à l'optimisation de ton média, la personnalisation de tes messages, jusqu'à au fond même l'optimisation de ta supply chain. Pour nous, la data, c'est juste
extraordinaire. Le métier, c'est la data. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute sur le sujet, quoi, clairement.
Et après, du coup, ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille aujourd'hui à fond, dans la digitalisation du core modèle. Et après, il y a des frontières, quoi, qui vont arriver. Alors, je ne vais pas te surprendre en disant au moins deux. La première, c'est l'omnicanal. Donc l'accélération du D2C pour des groupes comme le nôtre, c'est quand même c'est toute une nouvelle frontière, c'est pas quelque chose qu'on savait faire. On s'y lance
et puis on n'y allait pas, surtout. Enfin, je me souviens, au pro, on disait non mais nous on vendra jamais, on ne peut pas faire ça au coiffeur, c'est impossible. Et si ce n'est, enfin, et en même temps, tu te rends compte que si vous le faites pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place.
Bah, sauf qu'aujourd'hui, quand tu regardes, typiquement, si on prend l'exemple des coiffeurs, qui est un gros business, notre business historique, aujourd'hui, quand on est aux US et qu'on fait des visites dans les salons, les coiffeurs, ils nous disent, mais en fait, vos produits sont tous sur Amazon, en fait.
Bah oui.
Ils sont tous sur Amazon, donc s'il vous plaît, aidez-nous à gater tous ces produits à moins 50%. Il vaut mieux, comme tu disais, notre meilleur ennemi, il vaut peut-être mieux travailler avec Amazon pour gater ces produits et pour faire en sorte que l'exécution de la marque soit qualitative et soit du coup aspirationnelle, plutôt que de laisser se développer un marché gris dégueulasse.
C'est ça.
Sur lequel nos marques sont traitées très mal. Donc voilà, l'omnicanalité, le développement du D2C à la fois en physique, donc en retail, store et en e-commerce évidemment, et puis la deuxième grande frontière, c'est l'intelligence artificielle.
Ouais,
et ça, c'est quand même super excitant. Là, moi, je suis hyper excitée parce que tu vois, autant ronronner dans le monde du digital, ça serait un peu too much parce qu'on ronronne pas trop, mais autant depuis 5 ans, là, avec le mobile et tout, on commençait à peu près atteindre un point d'équilibre.
Ouais.
Autant là, je pense que tout va être redessiné.
En particulier, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que l'IA sans data, ça n'existe pas.
Exact.
Donc, ouais. Si t'as pas travaillé sur ta data il y a des années, tu peux pas faire d'IA en fait. Tu peux toujours faire, bien sûr. Il y a beaucoup de gens. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une sorte de bruit énorme autour des chatbots, mais bon, qui est vraiment plus de la com, des PR que vraiment un truc qui est pertinent. Aujourd'hui, il y a pas. Enfin, quand on regarde, il y a pas vraiment d'expérience client hyper satisfaisante avec des chatbots. Enfin, personne préfère parler à un chatbot qu'à un humain, sauf si ça va plus vite. En fait, le client veut quelque chose de rapide. Bon, le chatbot, c'est un truc, mais l'IA, c'est beaucoup plus puissant que ça, et ça permet d'analyser de la data, mais encore faut-il en avoir.
Exact.
Et faire ce que tu disais tout à l'heure, faire des clusters clients pour mieux cibler tes messages, et c'est là où ça devient hyper intéressant, effectivement.
Mais l'IA, ce qu'il y a de fascinant, encore une fois, c'est qu'on voit l'IA sur la partie, on va dire, marketing, mais l'IA, elle commence vraiment dès le départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu disais, il y a des trends qui deviennent mondiaux très rapidement parce qu'ils vont être portés par un petit nombre d'influenceurs extrêmement puissants ou par un petit nombre d'indie brands hyper puissantes, hyper visibles. Donc ça, tu vois, l'IA peut vraiment aider à la détection de ces trends. Aujourd'hui, nous, on est sur des problématiques, notamment si tu prends une catégorie comme le make-up, qui est extraordinairement volatile. T'as une teinte dont une blogueuse en Corée du Sud va parler, qui va être sold out à Pékin, mais aussi à Mexico, quoi. Donc si on n'arrive pas justement à mettre le pouvoir de l'IA ou de la data pour aller chercher et être plus smart dans le forecasting,
bien sûr,
on va se retrouver dans des problématiques de demande et d'offres qui vont être hyper complexes, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et après, évidemment, t'as tout le cœur du truc qui est la personnalisation. Qui est pour nous un enjeu absolument clé, parce que on sait que idéalement notre mission de marque et pour le groupe L'Oréal, c'est la beauté pour tous, mais aujourd'hui ce qu'on voudrait vraiment atteindre, c'est la beauté pour chacun.
Exactement. Ouais.
Et là, pour le coup, le pouvoir de la donnée est extraordinaire.
Il y a un sujet que tu as abordé un tout petit peu, mais pas tant que ça, sur les indie brands, ce qui est, je trouve intéressant, c'est que quelque part la vache à lait de L'Oréal, c'est quand même des marques comme Maybelline ou L'Oréal Paris qui ont vendu
très
grandes marques et généralistes, et aujourd'hui avec la concurrence de marques type Kiko qui font des produits, en fait il y a une sorte de
t'as une
polarisation des produits, c'est-à-dire que le produit au milieu, c'est-à-dire celui qui est pas luxe, mais en même temps pas bataillé sur le prix, ce produit-là, finalement, il a une place qui est de plus en plus discutée, parce que quelque part, comme c'est un marché soit c'est un marché tiré par le prix, parce qu'en fait finalement c'est de l'usage du quotidien, et voilà, soit c'est un produit qui est tiré par le luxe, et j'imagine que Lancôme s'en sera pas trop mal, mais pour des marques comme L'Oréal Paris ou Maybelline, c'est vraiment, j'imagine, plus compliqué, parce que c'est des marques du milieu, entre guillemets, qui doivent se décider si elles vont vers le prix ou si elles vont vers la qualité, non ? Enfin, je sais pas.
Alors,
c'est comme ça que je le vois, mais peut-être que je me trompe.
Aujourd'hui, de toute façon, la politique de L'Oréal a toujours été d'avoir, comment dire, un continuum d'offres et évidemment de prix, cascading de prix, qui fait que nous, on adresse à peu près tous les segments et tous les besoins. Entre, tu vois, un Yves Saint Laurent extrêmement premium, bien et un Giorgio Armani, jusqu'à un NYX ou un L'Oréal Paris qui sont plutôt abordables. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, alors tu prends des marchés vraiment comme le make-up ou la couleur de manière générale, ce qu'on voit, c'est que c'est au fond c'est que c'est au fond vraiment les trends qui drivent le truc. Donc pour moi, la priorité, c'est d'arriver le plus tôt possible.
Ouais.
En fait, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, quand le contouring est
apparu... D'être réactif, en fait.
Ouais, quand le contouring est apparu, parce que Kim Kardashian en a parlé, le truc est devenu une bombe terrible. Tout le monde voulait avoir ça. Et du coup, nous, notre marque NYX a été vraiment spot on sur la tendance. En quelques mois, on avait la meilleure offre, en fait, l'offre la plus complète en termes de palette, de coloris, etc. et d'application. Et donc, du coup, on a vraiment pris ce marché.
Ouais.
Et après, du coup, le cascading s'est fait chez L'Oréal Paris. C'est aussi l'avantage d'avoir un grand groupe, parce que quand on acquiert une marque comme NYX ou une marque comme Urban Decay, qui sont des indie brands purs, du coup, ça nous fait progresser tous.
Ouais.
Et donc in fine, t'es plus tout seul à prêcher la bonne parole digitale. Ouais. Oui. T'as aussi, en fait, le digital en train de se faire par ces marques-là, qui est une source d'inspiration extraordinaire.
Elles arrivent à garder leur agilité.
Ah ouais, vraiment. Alors là, pour le coup, nous, on est assez radicaux dans la façon dont on intègre les marques. D'accord. C'est-à-dire qu'elles restent à Newport Beach, elles restent à Los Angeles, et vraiment, alors on les intègre dans le sens où on leur offre tout ce qu'on peut leur offrir en termes de scale, de recherche, etc. Mais par contre, on les laisse extrêmement libres dans tout leur choix, dans leur choix de produits, dans leur choix de go-to-market, dans leur choix de marketing.
Ouais, ça c'est cool.
Bah, c'est essentiel, parce que sinon, effectivement, tu perds le edge.
Bah, c'est ça. Et alors, c'est passionnant, on doit s'arrêter. Ce podcast, il s'appelle Vlan, et donc j'aimerais te poser la question classique. À qui ou à quoi tu aimerais claquer la porte aujourd'hui ?
À tous ceux qui pensent encore que les gens qui font du digital, c'est les gens qui réparent les imprimantes.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir. Pour toi, c'est quoi l'avenir de la direction digitale ? Tu penses que c'est une direction qui va disparaître ?
Alors moi, j'ai toujours dit que j'allais disparaître si je faisais bien mon job.
Ouais. C'est ce que disent tous les DCDO en général.
Ouais, je crois que j'étais une des premières à le dire. Allez.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Allez.
je crois vraiment ça, parce que au fond l'objectif, c'est d'infuser le digital dans la pratique. Aujourd'hui, nous, on mesure le digital à travers la digitalisation de nos fonctions. Et aujourd'hui, on commence, et d'un point de vue RH, on commence à avoir vraiment de plus en plus de parcours croisés entre des non-digitaux, j'aime pas ce terme, j'en ai pas d'autres, des non-digitaux qui prennent des postes de digital, des digitaux qui prennent des postes de general manager, de marketing director, de patron de marque. Ça, pour moi, c'est les signes avant-coureurs de la réussite de la transformation digitale. Et donc ça, vraiment, je suis hyper claire sur ça. Par contre, ce qui reste vrai, c'est que le digital va continuer à se transformer.
Bien sûr.
Et en fait, moi, je suis convaincue qu'il y a deux phases dans le digital. Tu as la transformation du core modèle, du business tel qu'il est aujourd'hui, qu'il faut digitaliser à tous les étages, on va dire. Mmh. Et après, ce que fait le digital, c'est aussi qu'il crée des nouveaux business models, des nouvelles plateformes, et qui donne du coup à réfléchir sur c'est quoi la mission de ma compagnie au fond. La mission de ma compagnie, c'est d'apporter la beauté pour tous. Okay. Aujourd'hui, aujourd'hui ça prend la forme d'apporter des produits de beauté. De plus en plus, ça prend la forme d'apporter des services autour de ces produits de beauté, mais demain, quelle forme ça prend? Et ça, pour moi, le job du CDO, quand il est bien fait, il a déjà bien avancé la transformation du digital core business, et du coup chacun s'en sent responsable. Chaque patron de pays chez L'Oréal aujourd'hui se sent responsable de ça. Quand Jean-Paul Agon, notre CEO, vient dans une visite pays, le premier sujet qu'il demande à voir, c'est la transformation digitale. C'est le premier.
Okay.
Donc ça veut dire que c'est hyper clair dans l'agenda, c'est clair et net. Maintenant, la question, c'est comment on réinvente notre métier à travers les plateformes digitales. Sur quel nouveau modèle
ce qu'a fait Accor, entre autres, et c'est hyper intéressant.
Et c'est vraiment, là pour le coup, c'est toute une nouvelle phase, mais qui est vachement challenging, parce que elle est challenging surtout sur les modèles économiques, elle est challenging sur les gens, elle est challenging sur le fait qu'on n'a jamais vu aucune entreprise se disrupter de l'intérieur.
Ouais.
Donc elle est challenging sur le fait qu'il faut sans doute mettre en place des structures qui sont à côté.
Ben, c'est ça. Moi, j'y crois beaucoup aux startups internes. Enfin, ça, c'est vraiment un truc dans lequel je crois, parce que tu peux pas être... Enfin, c'est difficile, et moi, je suis pas dans une entreprise... Enfin, je l'ai fait, être dans des grandes boîtes, mais il y a tellement de politiques internes et tellement du coup de... ça bouge pas assez vite, en fait, que du coup je le fais pas, mais c'est vrai que si t'étais dans une start-up qui est infusée par une grande boîte et qui donne les moyens d'une grande boîte, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire hyper intéressantes, en fait.
Je suis convaincue que les deux mondes ne peuvent que s'épauler et que s'apporter beaucoup. Maintenant, il faut trouver les bons dispositifs pour faire ça, mais voilà, quand tu Mais il y a quand même des groupes tu vois, qui montrent la voie. Tu prends, bon, c'est des groupes techno que j'ai en tête parce que c'est là d'où je viens, mais si tu prends une boîte comme Adobe.
Ouais, je vais faire un sujet sur Adobe.
C'est hyper intéressant Adobe parce que c'est quand même, enfin, t'imagines le courage du CEO qui dit bon, je vendais des boîtes, je vais passer au marketing cloud, je cut 25% de mon chiffre d'affaires. Et j'arrive à le communiquer tellement bien que le cours de mon action continue de monter. Ouais, là, je pense qu'il y a vraiment une sorte de génie à la fois de vision et de comfy, parce que mine de rien, quand t'as une boîte côté, bah t'as quand même ça.
Bien sûr.
T'as quand même ça. Les analystes, ils attendent une certaine régularité, ils connaissent un certain modèle, donc il y a tout un travail d'explication que certains grands groupes français font très bien d'ailleurs. Tout un travail d'explication de, en fait, on est en train de shifter. La digitalisation, c'est aussi un shift vers de nouveaux business models.
Ah ben, c'est surtout un shift vers de nouveaux business models. Hein. C'est surtout une culture, dans un premier temps, ce que tu disais, et ensuite, c'est le shift.
Exactement. Et c'est clair que tu peux pas faire de shift. Parce que, regarde, le truc aussi, c'est que si tu digitalises pas ton portefeuille existant, on va dire, alors nous, c'est nos marques, concrètement, t'as pas non plus d'argent pour investir dans le nouveau shift, en fait.
Exactement.
Donc c'est là la complexité du truc, c'est que tu dois à la fois digitaliser le core modèle et le rendre le plus efficace et le plus pertinent possible dans un nouveau monde digital, et à la fois commencer à investir dans les nouveaux modèles, tout en maintenant un niveau de performance financière qui est acceptable et qui est rassurant pour l'intégralité des stakeholders.
Et c'est marrant parce que j'étais avec le patron de Adobe au summit à Londres, et c'était une session assez réduite, on va dire, et il disait si vous n'énervez pas des clients, des collaborateurs, c'est que vous ne transformez sans doute pas assez vite.
C'est vrai.
Et chez Adobe, ils ont vraiment pris ce parti de ouais, il y a quelques personnes qui étaient en colère.
Et de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde quand tu fais du digital. Hein.
Malheureusement.
Tu peux pas plaire à tout le monde.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.